Vous êtes sur Remue Ménage, Radio Zone 93,8 et nous sommes en discussion avec des gens de l'association Autrement aujourd'hui. Et c'est Mireille de Saint-Gy qui nous dit comment elle travaille avec les handicapés en tant que costumière.
Justement, j'imagine que tout comme il y a une façon de travailler au niveau théâtral avec eux qui doit être particulière, j'imagine que pour quelqu'un au niveau professionnel dans une autre partie de l'aspect théâtral intervient comme toi dans les costumes, il y a aussi une autre façon de travailler. Alors quand tu crées un costume, tu penses à quoi ? Est-ce que eux, par exemple, réagissent à leur costume de façon particulière?
Bon, souvent, là, comme travaillent Dominique et Gilles, au départ, comme ils partent sur des ateliers de théâtre, ils ont toujours des éléments de répétition qui sont des chapeaux ou de gilets ou de vestes. Et nous, la première vision qu'on a, où le travail est déjà un petit peu avancé au niveau des ateliers de théâtre, on a ces propositions d'éléments qui, tout d'un coup, nous donnent le tilt pour démarrer sur un costume, parce qu'il y a un chapeau qui leur va très très bien, qu'ils utilisent très très bien, ce qui fait que le costume en découle presque automatiquement. Et eux adorent les costumes, adorent être habillés, adorent qu'on leur mette des beaux costumes, comme ils disent, même si c'est un peu dépnaillé et déchiré pour les causes du spectacle. Mais ils aiment beaucoup ça, ils sont très fiers et très contents. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec eux, j'ai un bon contact, je trouve qu'ils ont un grand sens de l'humour et ils sont chaleureux. Et c'est vrai que pour nous, c'est un apport assez extraordinaire par rapport aux autres comédiens qui n'ont pas forcément un contact aussi chaleureux dans les coulisses et 3 ou 4 jours avant la première. Enfin, je veux dire, ils aiment qu'on soit là, ils nous attendent, ils attendent beaucoup de nous et ils sont à l'écoute aussi de ce qu'on leur propose, de ce qu'on leur raconte. Enfin, je veux dire, c'est assez étonnant, mais c'est vraiment agréable et ça, pour nous, c'est très motivant. On a envie vraiment de faire au maximum pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'ils aiment leur costume, pour qu'ils puissent vivre bien avec leur costume.
Ils ont conscience que, mais ça peut-être il faut poser à tous les deux, à tout le monde, au moment où ils enfilent un costume qui est un déguisement, enfin si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire qu'ils transforment leur personnalité, ils ont conscience de ça, que s'ils mettent un chapeau, un costume, ils deviennent quelqu'un de différent?
Disons, moi, je crois que comme disait Mireille tout à l'heure, c'est vrai que les costumes interviennent aussi dans le prolongement d'un travail d'atelier qui a déjà commencé, donc un travail sur des personnages, sur des choses comme ça. Et bon, moi je crois qu'ils ont tous conscience du fait qu'ils jouent. Donc le costume, c'est un des éléments, un des éléments les plus proches, puisqu'on le porte sur soi, je veux dire, mais du jeu. Et dans ce sens-là, je crois qu'ils le ressentent tout à fait. Et comme disait Mireille, ce sont des gens, je crois, c'est vrai aussi pour la mise en scène, où on voit très vite si ça colle pas. Non pas parce qu'il forcément il tiendrait un grand discours sur la forme de la veste ou quoi, mais parce que il s'y sentirait pas à l'aise, et je sais pas comment dire, qu'il manifeste très vite. Et c'est la même chose pour le travail d'un rôle. On voit vite si à un moment donné une proposition est plaquée ou si elle correspond à quelque chose et si la personne l'endosse très vite, quoi. Et les costumes, j'ai l'impression que ça fonctionne la même chose, c'est-à-dire qu'ils y adhèrent, je veux dire, et ils y entrent, mais je crois en toute conscience que c'est effectivement pour faire du théâtre, quoi, pour jouer, et que et justement il y a un grand intérêt de leur part, je crois, pour toutes ces charnières qui font qu'à un moment donné un spectacle devient spectacle, c'est-à-dire quelque chose qui est différent de soi. Et disons que nous, c'est quelque chose à quoi on est très attaché, ça, qui est que chacun s'investisse dans cette activité d'un certain côté, mais puisse en ressortir libre. Je veux dire qu'il n'y ait pas de confusion entre les. Même si on part des personnalités, si on pour nous, c'est quelque chose d'important, disons qu'il n'y ait pas non plus de confusion sur sur le statut d'un rôle, entre un rôle et une personne.
Est-ce que pour eux, c'est très important de se confronter à un public ? Entre les improvisations que vous faites dans les ateliers et puis le jour où on dit maintenant il faut que nos impros elles prennent une forme, on va créer quelque chose qui se tient et puis demain c'est la première, on joue. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux cette confrontation au public? Pourquoi fixer cet objectif justement, comme vous disiez tout à l'heure, il faut qu'il y ait un enjeu au bout du travail, pas simplement le travail tout court?
Ben écoutez, moi je crois que les deux choses sont très importantes, c'est-à-dire que je crois qu'on ne pourrait pas faire que du public sans faire de travail d'atelier, d'improvisation, de chauffement, de choses comme ça, parce que pour eux, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup et qui, je veux dire, on l'a remarqué même pendant ces jours ici à Saint-Gervais, où certains jours on se disait on va faire un chauffement un peu réduit parce que quand même on joue, on répète, on fait beaucoup de choses. Et eux sont très attachés au travail de fond, l'atelier. Maintenant, c'est évident que l'enjeu, je pense qu'il y a des gens qui ont une intuition de la situation théâtrale. C'est des gens qui ont une sensation de qu'est-ce que c'est cette situation très particulière quand même de la scène, de gens qui racontent une histoire sur scène et d'un public qui est là pour regarder. Donc moi, le rapport au public, je dirais qu'ils en ont une forte conscience, mais pas dans le sens... je dirais qu'ils en ont un qui n'est pas très différent finalement que le nôtre. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont un peu traqueux, il y en a qui le sont moins. Maintenant, c'est évident que c'est quand même une des rares situations où ils sont placés à tenir, eux, un terrain qu'ils ont appris à maîtriser et où c'est eux qui tiennent la scène. Donc je crois que pour beaucoup c'est quand même important cette histoire que ça part d'eux et c'est eux qui portent le spectacle. Une fois qu'ils sont sur scène, c'est à eux de tenir le spectacle. S'ils jouent bien, s'ils jouent moins bien, c'est de leur responsabilité, nous on n'y peut rien. Donc je crois que dans ce projet, c'est une des choses importantes, c'est qu'aussi pour parler, c'est pas du chiquet. Je veux dire, ce projet, il est vrai du début à la fin. C'est-à-dire qu'on les prend au mot, au sérieux, avec ce qu'ils donnent, et on leur donne les moyens de présenter ce qu'ils peuvent dans de bonnes conditions. Et dans de bonnes conditions, ça veut pas seulement dire avec un décor, des costumes, etc., mais ça veut dire aussi, justement, en ayant fait avec eux un scénario qui ne soit pas l'objet simplement d'un regard un peu où on regarderait un handicapé se dépatouiller dans une semi-improvisation publique. Ça, disons que nous, on trouve que ce serait très faux. Même si on peut dire d'un certain côté on verrait mieux ce qu'ils sont en réalité, disons, moi je trouve que c'est juste que quelqu'un qui soit sur scène, il ait des armes, et que donc ils ont ces armes là et je crois qu'ils apprécient beaucoup ce rapport au public, dans la mesure où il est où jusqu'à maintenant, en plus, le public a bien réagi généralement au spectacle, à ce spectacle-là en particulier. Je veux dire, on a eu du monde quand même, mais je crois qu'ils ont, en même temps, eux, ils ont travaillé pour ça. Je veux dire, ils ont consacré leur week-end, ils ont consacré beaucoup de temps. C'est pas un travail qui est facile, hein, c'est un travail qui est quand même exigeant à certains moments. Donc, ils ont, je veux dire, le plaisir, il est pour eux, mais comme, je sais pas, il est pour nous aussi. Hein, je dirais, je crois que moi, je suis aussi inquiet qu'eux avant la première, ou pas inquiet selon les fois, mais je veux dire, je crois pas qu'il y ait quelque chose de... Je crois qu'ils ont conscience de ce qui se passe très fortement et qu'ils en sont ils y sont très impliqués. Mais disons que nous, en tout cas, on favorise pas non plus l'aspect, trop... qui pourrait être un risque à un moment donné du cabotinage aussi, hein, je dirais. Et je crois que comme nous, on ne sollicite pas le public sur le fait de dire comme c'est bien parce que c'est des handicapés, je crois qu'eux sont assez contents de ça au bout du compte, même si c'est exigeant. C'est-à-dire qu'on ne leur passe pas non plus trop de choses parce qu'ils sont handicapés. On demande une exigence, on demande une rigueur dans la prestation. Et ça, c'est quelque chose au bout du compte qu'ils apprécient et qui fait, je crois, que le rapport avec le public, il est équilibré. Parce qu'eux, ils présentent pas n'importe quoi au public et c'est pas pour n'importe quoi que le public apprécie, je crois. Voilà, je réponds peut-être un peu longuement.
Non, mais je crois que c'est ça qui est intéressant, que les gens découvrent derrière ce spectacle, parce qu'effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus le voir, et peu de gens savent vraiment comment ça se passe.
Je ne sais pas, peut-être certaines et certains d'entre vous sont allés voir ce spectacle Éclat de verre dans un terrain vague. Et je ne sais pas si vous avez ressenti une émotion particulière. Moi, par exemple, les saluts toujours m'impressionnent beaucoup. J'ai vu plusieurs spectacles et il y en a qui sont très exubérants, d'autres beaucoup plus renfermés. C'est une autre confrontation avec nous. Mais c'est sûr qu'il faut admettre que quand nous allons à un de ces spectacles, C'est évident, nous n'ignorons pas qu'il est présenté par des personnes handicapées et on ne peut pas nier non plus qu'on n'est pas dans le même état d'esprit que lorsque l'on va voir un autre spectacle. Soit on y va pour découvrir un monde qu'on méconnaît et soit peut-être même, pourquoi pas, pour essayer de régler un malaise qu'on ressent dans le quotidien par rapport aux personnes handicapées. Alors, est-ce qu'une manifestation comme celle qu'a organisée l'association Autrement aujourd'hui à la Maison de la Culture de Saint-Gervais à Genève, en présentant son spectacle, en présentant le travail de ses ateliers, en accueillant les gens au bar du deuxième, pour les encourager à échanger avec eux-mêmes. Est-ce que cette manifestation a favorisé les rencontres? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus après le spectacle au deuxième étage?
Écoutez, je pense que, bon, moi j'ai de la peine à évaluer vraiment ça, mais je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du spectacle, je pense qu'on a eu un public sensiblement plus large que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui sont venus sur des articles, sur un bouche à oreille. Donc il y a un public qui s'est élargi et dans ce sens-là, je crois que ça a été important. Et maintenant, ici au deuxième, je crois que pas mal de gens sont passés, alors pas forcément toujours après le spectacle pour rencontrer les personnes. Du reste, ça, je crois que c'est, disons, moi, quand je vais voir un spectacle, j'ai pas forcément envie de voir tout de suite après les gens qui l'ont fait. Ça, c'est des questions aussi de, disons, des questions personnelles. Mais je pense que le fait même d'être dans cette maison de la manière dont on l'est est une ouverture, je veux dire, et je pense qu'il y a une évolution par rapport à un public je crois que la question, c'est qu'il faut effectivement que les gens viennent voir une fois, parce que les gens ont un certain nombre d'appréhensions souvent avant, mais jusqu'à maintenant, moi j'ai souvent eu des retours de gens qui disaient j'avais des appréhensions, maintenant j'en ai plus, quoi, d'une certaine façon. Et même si après il y a des choses qui peuvent être discutées, discutables, contestées ou contestables, mais le fait d'être dans un lieu comme Saint-Gervais, qui était un lieu public et un théâtre professionnel et tout ça, je pense que tout ça a dédramatisé peut-être un certain nombre d'appréhensions. Et que bon, ce deuxième fonctionne comme un lien aussi avec le programme vidéo. Il y a des gens qui s'intéressent aussi tout à coup à toute une problématique qui n'est pas uniquement orientée sur le fait que ces personnes sont des personnes particulières, ce qui est vrai par certains côtés, mais qui peut être vu aussi sous un angle à nouveau positif et dynamique, que je dirais, pas seulement sous un angle problématique et difficile et inquiétant.
Tout à fait, mais si je vous parle du deuxième, c'est parce que justement, voir un spectacle, c'est une chose, mais les acteurs sont encore à distance, hein, une fois de plus. Donc, avoir envie, ne serait-ce que d'être dans le même endroit où ces gens se saluent, s'embrassent, parce que c'est magnifique de voir à quel point ils se retrouvent, ils sont contents, ils viennent saluer les gens qui les ont applaudis juste précédemment. C'est vrai que c'est très émouvant et que ne pas sentir ça, c'est dommage. Donc c'est...
Oui, alors nous, on avait envie d'offrir cette possibilité, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas simplement présenter un spectacle et après terminer rideau, vraiment. Maintenant, je pense que c'est vrai que c'est à chaque personne de savoir si elle a envie d'approcher plus ou au contraire de garder le spectacle comme quelque chose d'à part sans forcément en voir les... Mais nous, on avait envie d'offrir cette possibilité, d'autant plus que cette semaine-ci où le spectacle est terminé, il y en a plusieurs qui vont venir certains jours entre 5 et 7 tenir le bar ou discuter un petit peu, enfin participer à l'accueil avec nous, parce que justement ça fait partie un peu de notre réalité aussi. C'est pas seulement pour montrer des personnes, mais c'est aussi parce que ça fait partie de l'ensemble de notre projet, je crois, de dédramatiser une, comme on disait, quand on travaille sur un spectacle avec un décorateur, avec un éclairagiste, mais c'est des rencontres qui se font aussi avec des gens qui sont pas forcément préparés à ça et qui, je crois que c'est le fait pour nous de surtout pas forcer ça, mais d'offrir des occasions que ça se passe de façon simple et non programmée. Enfin, non.
Oui, je pense que de façon générale, on n'avait pas l'intention de faire une démonstration de ces 3 semaines à Saint-Gervais, ni de se dire on va faire une évolution, montrer, faire une démarche au public, quoi, qui que ce soit. Ce qu'on avait envie, c'était de pouvoir permettre aux gens d'approcher un petit peu ce qu'on faisait, en particulier la démarche théâtrale, de proposer un certain nombre de moyens qui permettent un peu d'entrer dans notre préoccupation. D'ailleurs, quand on voit le programme vidéo, c'est vrai qu'il il est très varié, donc on parle aussi bien du théâtre que de l'art brut, que de certaines conditions de vie ou de travail de ces personnes. Et on voulait que les gens qui viennent à Saint-Gervais gardent une certaine liberté d'approcher plus ou moins, de nous approcher plus ou moins, de venir prendre ce qu'ils avaient envie de prendre et de pouvoir repartir totalement libre ou bien de pouvoir approfondir un contact s'ils le désiraient.
Alors toujours cette semaine, manifestation à la Maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Gervais à Genève. Vous pouvez aller rencontrer les membres de l'association Aujourd'hui Autrement et les comédiens et comédiennes du Théâtre de l'Esquisse qui ont fini de présenter leur spectacle mais qui seront là, comme vous l'a dit Gilanet, pour vous accueillir au bar du deuxième étage qui est ouvert tous les jours de 17h à 23h. Et toute cette semaine, jusqu'au 22 avril, vous pourrez consulter le programme vidéo. Il y a de nombreux films qui vous seront montrés le soir à partir de 17h. Et vous pourrez voir jeudi 20 à 19h la présentation intermédiaire du travail de l'atelier d'adolescents et samedi 22 à 19h la présentation intermédiaire de l'atelier théâtre de Lausanne. Si vous le voulez aussi et sur votre demande, vous pouvez voir la vidéo de l'émission Viva réalisée par la télévision suisse romande.
Vous avez bien fait de venir nous voir. Ce sont pas les sorties de mon placard. Ce soir, on va se prendre un vrai panard.
Tant pis pour ceux qui sont en retard. DSF, ça dégage les bronches. DSF, ça dégage les bronches. Dégage les bronches, nettoie la tronche. Ça fait crasse mieux qu'une vieille éponge. Ça fait bruit entre les orteils. Ça rend propre le fond des oreilles. Ça fait bruit entre les orteils. Ça rend propre le fond des oreilles. Ça fait bruit entre les orteils. Ça rend propre le fond des oreilles. Ça fait bruit entre les orteils.
TSF, drôlement vocal. Vous vous souvenez, ils étaient à Saint-Gervais il y a 2 ans. Ils sont revenus cette année. On y était aussi tellement on aime ça. Ils sont 4 et c'est superbe. Ils sont plein d'imagination. Et maintenant, à mon vélo, ça c'est une chanson qu'on dédie avant tout à nos autorités. Qu'elles pensent un peu à tous les gens qui veulent aller à vélo, qui désirent aller à vélo. Et aussi à tous les automobilistes qui feraient mieux de faire un peu plus attention aux gens qui vont à vélo.
Quand je te vois, je me dis que t'es vraiment le plus beau. La rondeur de tes pneus, ton guidon, le cuir de ta selle, tes chromes d'argent me donnent frisson. La graisse et le goudron, nos corps. innocents cherchent le plaisir des sens interdits.
Quand je sens gémir sous mon effort,
Marcel lisait des bandes. dessiner. Sasha Gabor, Daniel Darieux, et aussi Marlène. Marcel, il faut aller à Sainte-Thérèse de Lisieux.
C'est Ingrid Cavan que nous interrompons. Là, elle chante Piaf. Vous l'avez sans doute entendu à Beausobre. Là, c'était un extrait de l'enregistrement qu'elle a fait justement lors de son passage à Paris. C'était l'interview d'Edith Piaf, le seul morceau du disque qui n'est pas d'Edith Piaf, mais qui continue à lui rendre hommage. RU 486, eh ben non, ce n'est pas un nouvel avion. C'est pas du tout ça. C'est le nom de la nouvelle pilule abortive qui a déjà été mise dans le commerce en France et en Chine et pas du tout en Suisse. Et l'USPDA, l'Union Suisse pour la décriminalisation de l'avortement, organise justement une journée d'information à ce propos. La RU486, c'est une pilule d'abord que l'on absorbe quelques jours après une injection de prostaglandine. Nous en saurons plus avec tout d'abord Martine Dondena, qui est présidente romande de l'USPDA, qui va nous parler de cette journée d'organisation. Et ensuite, nous avons téléphoné au professeur Hermann, qui a été un des premiers en Suisse à expérimenter cette pilule à la maternité de Genève. Alors tout de suite, Martine Dondena, à qui j'ai demandé pourquoi l'USPDA organisait une telle journée.
Oui, c'est en fait pour un peu connaître l'impression des femmes qui ont subi ce genre de pratique lors d'une demande d'interruption de grossesse. Ce sera une femme médecin de Paris qui viendra en parler. Elle a fait une enquête sur les aspects qualitatif aussi de quelle perception pour la femme qui a une interruption de grossesse de cette manière-là. Puis il y aura les aspects plus scientifiques par le professeur Beaulieu, l'inventeur de la pilule. Et puis le point de vue d'une sage-femme qui accompagne les femmes lorsqu'elles ont une interruption de grossesse sur ce mode-là. Alors c'est en fait pour connaître quel est le vécu de ces femmes-là, comment elles le ressentent. On dit que ça pourrait banaliser l'interruption de grossesse, mais on pense que plutôt que ça va responsabiliser les femmes, parce que c'est autre chose de prendre des comprimés, de saigner, que d'avoir un acte chirurgical sous narcose. On se sent probablement plus concerné au moment où on fait le geste soi-même de ne pas avoir de tiers qui prend son bistouri, son aspiration sous anesthésie générale. On se remet pas mal au médecin au moment où on a décidé d'avoir une interruption de grossesse dans l'aspiration.
Alors là, vous pensez qu'au contraire, avec justement la prise et l'injection, on serait plus consciente de...
Premièrement, c'est beaucoup plus long dans le temps, hein, parce qu'il y a la prise des comprimés, après il y a l'injection 3 jours après, après il y a un certain laps de temps qui s'écoule jusqu'à l'évacuation du fœtus. Hein. Donc
selon
vécu
vous,
sur un plus grand laps de temps.
Mais selon vous, il y a un avantage à ce procédé par rapport justement à un acte chirurgical?
Le problème, c'est qu'il n'y aura pas les effets secondaires dus à l'acte chirurgical, les risques possibles dus à un acte chirurgical avec une anesthésie générale.
Bien qu'on ne connaisse pas les effets secondaires à long terme de la RU 486.
Alors à long terme, vous dites par rapport à la...
aux effets
physiologie de la femme.
Voilà, tout à fait. Et à une future grossesse, par exemple.
Non, ça, on n'a pas assez de recul pour dire, effectivement, quels pourraient être les effets secondaires.
Vous, en fait, en tant qu'association, vous êtes intéressée à l'information en pensant que ce serait quelque chose de, justement, un pas en avant dans l'histoire de l'avortement.
Oui, c'était d'ailleurs de ne pas laisser s'installer un débat complètement polémique sur le sujet, mais de savoir concrètement ce qui se passe, ce qui se fait, comment c'est vécu. Ça a quand même été testé dans les milieux médicaux, ça n'a pas été introduit comme ça sauvagement sur le marché français.
Toujours est-il qu'il semble qu'en France, la commission des médicaments a interdit la commercialisation, puis après avoir passé un accord avec la Chine, le médicament a quand même été commercialisé. Alors là, on peut aussi se poser des questions. Des facteurs économiques qui déterminent un médicament ou bien...
Alors le problème, c'est qu'il y a eu des énormes pressions des milieux intégristes, fondamentalistes, qui ont fait pression sur l'institution qui était Roussel-Uclaf et puis sa succursale Hoechst pour boycotter en fait ces industries chimiques si elles ne retiraient pas le RU486. C'est des pressions tout à fait politiques, quoi.
Donc selon vous, la première interdiction, c'était politique.
C'est un débat purement polémique sur le sujet, tout à fait. C'était est-ce qu'on tient compte des pressions de ces milieux qui sont contre l'avortement dans tous les cas.
Et maintenant, il y a je sais plus comment il s'appelle, là, le secrétaire de Provie ou quelque chose du genre, là, américain.
Oui, à la vie.
Oui, à la vie, voilà, qui se balade un peu partout pour faire sa campagne. Vous pensez que, comme il menace un boycott de tous les produits français, il risque de faire, en tout cas, si ce n'est échouer la commercialisation plus dans d'autres pays de ce produit, de faire retarder les recherches, par exemple?
Moi, je crois que dans plusieurs pays occidentaux, il y a des courants comme ça, très intégristes, même violents. Hein. On a vu qu'ils posaient des petites bombes devant certaines cliniques qui font des interruptions de grossesse. Mais c'est justement le rôle de l'USPDA de lutter contre ces courants qui sont complètement anti-liberté de la personne humaine, qui ne laissent pas le choix à l'individu de choisir en connaissance de cause ses choix de vie, finalement.
Là, vous faites une journée d'information, mais vous avez déjà pris position, plus ou moins de manière précise, pour cette pilule.
Alors l'USPDA a pris position dans un communiqué de presse pour, en fait, encourager tous les milieux médicaux et planning familiaux à faire pression sur... de manière publique pour que la pilule RU486 soit introduite comme moyen abortif dans notre pays.
Donc pour vous déjà c'est clair.
Nous on pense que c'est une nouvelle alternative à l'interruption de grossesse et qu'il faut se battre pour que ça soit possible. Nous on pense aussi, l'USPDA pense que cette introduction d'un nouveau procédé abortif permettrait à des médecins qui sont opposés à cause de leur conscience à l'interruption de grossesse de moins être impliqués dans ce processus. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas un acte à faire eux-mêmes, mais ce serait la femme qui demande l'interruption de grossesse qui est beaucoup plus concernée.
Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'argument de dire que peut-être ça va encore... démobiliser les femmes ou déconscientiser les femmes par rapport aux moyens de contraception qu'elles doivent employer?
Non, moi je crois que on a toujours défendu une sensibilisation à la contraception, une lutte pour qu'on fasse de l'information dans ce domaine qui doit absolument pas être, qui doit être tout à fait parallèle. Et on ne pourra diminuer le nombre d'interruptions de grossesse qu'en faisant de la prévention en amont.
Et par rapport, justement, c'est donc l'Union suisse pour la décriminalisation de l'avortement, par rapport à la lutte concrète contre l'avortement, pour l'avortement, je veux dire, quels sont les obstacles que vous rencontrez le plus maintenant, en ce moment, en Suisse?
En ce moment, c'est en fait une démobilisation des partis politiques sur le sujet. Donc il y a une loi du code pénal qui n'a jamais été révisée depuis 1942, et les partis politiques... actuellement, ne s'intéresse plus à ce sujet. ça bloque tout progrès au niveau législation, je dois dire.
Et vous, vous entreprenez quelle démarche ?
Pour faire changer la loi ?
Oui.
On a l'impression que les fêtes, les incidences de tous les jours vont amener une modification de la loi sans que finalement les politiciens empoignent carrément le sujet. Par exemple, l'introduction, tout ce débat sur le RU 486, ça va amener de nouveaux débats sur le sujet.
C'était Martine Dondena, présidente romande de l'USPDA, de l'Union Suisse pour la décriminalisation de l'avortement, qui s'exprimait. Nous avons téléphoné au professeur Herman, donc ancien chef de clinique de la maternité de Genève, qui a participé aux premières expériences concernant la RU 486 à Genève. Et nous lui avons également demandé son avis à ce sujet et de nous donner quelques précisions sur la RU 486.
Donc, professeur Herman, comme vous avez participé aux expériences concernant la RU 486, est-ce que vous pouvez nous vous expliquer le principe de ce nouveau procédé ?
Donc, le principe du médicament, c'est un blocage de la progestérone, une hormone nécessaire pour le maintien de la grossesse. Et après prise de ce médicament, la grossesse n'est plus entretenue comme elle serait normalement, et puis il y a expulsion dans la majorité des cas. Des produits de conception, donc de la grossesse ou du fœtus.
Mais concrètement, ça signifie quoi pour la femme qui prendrait la RU486 ?
Concrètement, ça correspond à une fausse couche naturelle, c'est-à-dire des saignements, des crampes pour vider l'utérus et qui peuvent durer 4-5 jours ou plus, et puis tout retourne à la norme.
Mais quel est l'avantage alors, par rapport aux méthodes qu'on utilise en ce moment ? C'est principalement le curetage du reste en ce moment qu'on...
En ce moment, c'est surtout l'aspiration, n'est-ce pas ? Donc le curetage par une canule d'aspiration qui demande une anesthésie, en général une anesthésie générale, pas une anesthésie locale, même que ça peut se faire aussi sous anesthésie locale, et puis une hospitalisation. Avec un produit tel que les RU, on peut envisager un avortement dans un service ambulatoire si on est assuré de la coopération de la patiente, c'est-à-dire des visites de contrôle nécessaires pour qu'il n'y ait pas de perte de sang excessive et que l'avortement soit vraiment complet à la fin du traitement.
Mais est-ce que pour les femmes, ça signifie, par exemple, moins de douleur qu'un curetage ? Est-ce que c'est une méthode qui simplifie ?
Alors, c'est sûr que... pendant un curetage, il n'y a pas de douleur parce que vous êtes endormi. Et avec un avortement induit médicalement, il faut vivre les contractions utérines et puis l'hémorragie et puis tout ce qui va avec. Et ça peut durer plusieurs journées.
Donc psychologiquement, ça peut avoir un autre impact aussi.
Du point de vue psychologique, à ce niveau, c'est certainement un désavantage. Mais vous n'avez pas le trauma psychologique qui correspond à l'entrée à l'hôpital, le dossier, l'attente devant le bloc opératoire, l'anesthésie, le réveil et tout ce qui va avec. Donc il y a des avantages et des désavantages des deux côtés.
Et lorsque vous avez fait les expériences, vous avez constaté des effets secondaires sur vos patientes ?
Bon, du point de vue psychologique, il n'y en avait pas, parce que c'était toutes les jeunes femmes très désireuses d'avoir une interruption de grossesse. Il faut aussi dire, à ce moment-là, on ne s'est pas encore servi des prostaglandines qu'on ajoute maintenant pour augmenter les contractions utérines. Et comme effet secondaire du point de vue médical, il y avait un certain pourcentage qui avait des pertes de sang excessives, une femme qui n'a pas avorté du tout, et puis deux où il fallait intervenir pour arrêter ou compléter l'avortement par un curetage. Et ça, c'est toujours le risque aujourd'hui, que même avec la prostaglandine, où ça fonctionne un peu mieux, il reste un petit pourcentage de femmes qui continuent la grossesse, malgré la prise des RU, et on ne sait pas pourquoi. Et c'est dans toutes les séries du du monde maintenant, en Chine, en France, en Amérique, il reste toujours un petit pourcentage. Et puis, il reste un autre pourcentage qui saigne d'une façon prolongée, excessive, où il faut intervenir d'une manière chirurgicale.
Mais vous dites que psychologiquement, on n'a pas constaté d'effet, mais en fait, on n'a pas fait d'enquête sur le vécu de ces femmes.
Oh, pas dans notre petite série, n'est-ce pas? On n'avait qu'une dizaine de femmes, 11 à être précis. Mais je pense que si vous prenez une grande population, un avortement est toujours avec un effet psychologique. C'est pas quelque chose qu'on vit d'une façon banale. Alors il faut après faire le tri des réactions dues à l'avortement ou dues à l'avortement induit par RU. Donc ça devient assez compliqué. Je suis sûr qu'il y a des réactions psychologiques négatives ou lourdes.
Et les effets secondaires à long terme, donc on ne les connaît pas, par exemple par rapport à une prochaine grossesse.
Oui, on le connaît, il y a des séries maintenant de femmes qui ont eu des enfants après un premier avortement, donc je crois là, il n'y a pas de risque. On connaît aussi assez bien la biologie, la pharmacologie du produit, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour qu'il soit complètement éliminé, donc ce côté-là, il n'y a pas de risque.
Là, vous avez dit avant que, en effet, l'avortement, ce n'était pas un phénomène banal. Pourtant, pour beaucoup, ceux qui sont contre l'avortement, ils disent qu'un tel procédé, ça banaliserait l'avortement.
C'est toujours le risque que ça le banalise dans l'imagination, l'interprétation des gens, peut-être une ou l'autre femme, mais en principe, tout ce qui concerne un avortement, la décision, la procédure elle-même, le fait de savoir qu'on l'a vécu à une date ultérieure présente certainement des problèmes. Et la banalisation de ce procès à un moment où on se trouve dans une situation pénible d'une grossesse non désirée, cette banalisation reste évidemment un risque quand on a quelque chose qui a l'air d'être assez facile comme la prise des RU.
Là, vous pensez que c'est vraiment... Donc, c'est un argument valable?
Oh, je crois que c'est un argument valable. Il faudra se défendre contre cet argument avec une bonne information. Je crois que les Français le font, du reste.
Vous, quand vous étiez, vous me disiez, à l'hôpital, à la maternité, il y a environ 1000 avortements par année.
À peu près, oui.
Et vous vous situez comment, donc, par rapport à ce nouveau procédé? Vous pensez qu'une commercialisation rapide serait une bonne chose en Suisse, par exemple?
Oh, je ne pense pas pour le moment. Je crois que ça serait déjà difficile vis-à-vis des lois que nous avons. Et je ne suis pas sûr que pour nous, ça présente un vrai avantage.
Dans quel sens?
Dans le sens que les interruptions de grossesse sont maintenant assez bien organisées. Et ça se fait pendant une journée. On entre le matin, on sort le soir. Je ne suis pas sûr que vivre l'avortement pendant 4 ou 5 jours avec les contrôles médicaux nécessaires, que ça présente un avantage sur la procédure actuelle.
Vous pensez que quand même, justement, c'est surtout psychologiquement alors que ça fait des différences?
Psychologique et puis les pertes sanguines, n'est-ce pas, qui peuvent vraiment être excessives avec un besoin de transfusion.
Voilà, c'était le professeur Herrmann, ancien chef de clinique de la maternité de Genève, qui s'exprimait à propos de la RU 486. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est commercialisée en France et en Chine, mais pas en Suisse. Que visiblement ça va pas l'être tout de suite, que en attendant l'USPDA organise une journée d'information samedi 22 avril à l'hôtel Alpha à Lausanne. C'est au Petit Chêne numéro 34. C'est une conférence publique avec divers intervenants, dont celui qui a créé la pilule, une sage-femme qui accompagne les femmes qui ont subi ce genre-là d'avortement. En ce qui nous concerne, on pense qu'il est important de s'informer un maximum sur ces nouvelles manières de procéder pour l'avortement, qu'il est toujours important de se mobiliser pour l'avortement, pour décriminaliser l'avortement, et que surtout toute femme soit en mesure de choisir son propre moyen d'avortement si elle désire le faire. Vous étiez à l'écoute de Remue Ménage sur Radio Zone 93.8 et nous vous retrouvons mercredi prochain à 17h.